Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Ce soir, pétition, hashtag, est-ce la dictature de l'opinion ? C'est un hashtag qui provoque l'inverse de ce qu'il proclame. Pas de vague s'est imposé en quelques heures sur les réseaux sociaux. Il recense des témoignages de profs qui racontent les violences dont ils ont été témoins et surtout l'indifférence de leur hiérarchie. Face à cette vague de colère numérique, le gouvernement vient de décider d'un plan d'action contre la violence à l'école. Un autre outil de mobilisation en ligne connaît une progression spectaculaire depuis quelques années, la pétition. La plateforme change.org en accueille de toutes sortes, y compris d'ailleurs une pétition pour interdire les pétitions. Une des plus récentes et des plus visibles est celle initiée par l'humoriste Muriel Robin. Elle s'adresse directement au chef de l'État et lui demande d'agir contre la violence conjugale. Alors on peut voir ce genre d'initiative comme une façon de régénérer la démocratie. Mais n'y a-t-il pas aussi une perversion lorsque l'expression citoyenne tourne à des formes de délation, comme y engagent parfois certains hashtags ? Et que dire de la représentativité de ces initiatives ? Alors pétition hashtag la dictature de l'opinion, c'est notre sujet du jour.
Je souhaite que le droit de pétition soit revu, afin que les propositions des Français puissent être présentées à la représentation nationale.
90% des Français sont favorables à une interdiction de l'élevage en cage des poules pondeuses.
Je reviens vers vous aujourd'hui suite à notre première pétition demandant l'inéligibilité pour quiconque se rendant coupable de violences faites aux femmes.
Désormais, nous devons l'inscrire dans la loi.
Alors empressez-vous de signer et de relayer
la pétition adressée au gouvernement pour dire stop aux cages.
Sauvons-les, plus nous serons nombreux. Plus nous serons forts et légitimes.
Pas de vague, on a des statistiques, donc pas de vague. Et puis il ne faut pas ternir l'image de l'établissement aussi.
Toutes les minutes, vous avez des messages, pas de vague, pas de vague. Ce déni de nos difficultés, c'est quelque chose dont on crève. Et là, justement, nous, on a envie de crever la bulle, quoi. On a envie que les gens comprennent.
Un mix signé comme chaque semaine par notre réalisateur Alexandre Fougeron. Vous aurez reconnu les voix, entre autres, d'Emmanuel Macron, de Stéphane Bern et de Muriel Robin. Et vous allez reconnaître à présent les voix de deux des membres de notre club. Laetitia Strauss-Bonnard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, chroniqueuse pour le magazine Le Point. Vous vous y occupez notamment de la revue, rappelez-moi son titre.
Phébé.
Géraldine Mühlmann, bonsoir.
Bonsoir, Rigardette.
Professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2. Je rappelle aussi l'ouvrage que vous avez commis sur le journalisme, dont le titre était...
Du journalisme en démocratie.
Et puis notre invité cette semaine, c'est Romain Slitine. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes le fondateur de SystemD, qui est un accélérateur d'innovation démocratique. Et vous avez publié en 2016 avec Elisa Lewis « Le coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie ». C'était à la découverte. Alors la première question sera pour vous, Romain Slitine. Le hashtag... Pas de vague. Donc, je rappelle, hein, ce sont des profs qui, à travers ce hashtag, racontent leur expérience de la violence et surtout le manque d'écoute de leur hiérarchie. Est-ce que ça fait partie de ces initiatives, pour vous, qui réinventent la démocratie, puisque c'est le sous-titre de votre ouvrage ?
Alors, pour moi, c'est une initiative citoyenne qui est un coup. Avant tout un coup médiatique et un appel aux dirigeants sur un sujet justement qui passe un peu en dessous des radars. Donc pour moi, une initiative qui réinvente la démocratie, elle s'inscrit un peu plus dans le temps, elle s'organise et elle obtient des résultats. Alors là, effectivement, en peu de temps, ils ont réussi à obtenir au moins une réaction du gouvernement. Donc ça fait partie quand même de ces initiatives citoyennes.
Et quelle est l'appréciation que vous portez justement sur ce genre de coup ? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou est-ce que ça n'est que de l'écume justement médiatique, disons ?
Ah non, je pense que c'est très intéressant parce que c'est en fait la manifestation que aujourd'hui la démocratie telle qu'elle fonctionne avec nos institutions n'arrive pas à faire émerger tous les sujets qui intéressent ou qui concernent les citoyens. Donc évidemment, il faut, et moi j'y crois beaucoup, que les citoyens dans leur diversité, alors soit parce que c'est une catégorie professionnelle qui a l'expérience d'une problématique, soit c'est des gens qui sont dans différents domaines et qui se rassemblent sur une cause, eh bien, puissent faire entendre leur voix. Donc moi, j'y crois beaucoup.
Géraldine Mühlmann.
Moi, je trouve ça intéressant, comme je trouve en général intéressant les récits. Je pense que vous le savez que le journalisme moderne s'est créé autour du récit et pas seulement autour du discours. Et que les récits, c'est les témoignages, c'est le rapport à la texture sensible des vies qui constituent nos démocraties modernes. Et je pense qu'on apprend toujours des choses dans les récits. Après, il faut voir ce qu'on en fait. En l'occurrence, là, il me semble qu'au moins deux choses s'apprennent. La première, c'est que... On a un point de vue qui n'est pas faux, hein, d'experts qui nous disent des choses qui sont très justes et très intéressantes, c'est-à-dire que malgré tout, les violences scolaires sont un peu circonscrites, ça représente des petits pourcentages. Ils ont raison d'ailleurs de nous rappeler ces aspects quantitatifs, mais il y a toujours dans la vie des gens des aspects proprement qualitatifs, émotionnels, sensibles, et je crois qu'il y a un ressenti extraordinairement douloureux de gens dans le domaine de l'éducation qu'il faut entendre et ça résonne d'une manière, c'est un peu le grain de l'histoire, comme disait Michel Foucault, la texture sensible des choses. Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est que longtemps, droites et gauches d'ailleurs, sur ce sujet, faisaient beaucoup confiance aux chefs d'établissement. On a eu beaucoup ce discours depuis 20-30 ans, il faut vraiment autonomiser les chefs d'établissement, leur donner plus de pouvoir, etc. Et là, pour la première fois, on a une parole qui nous dit, mais les chefs d'établissement ne nous soutiennent pas assez sur ce sujet. C'est pas ce qu'on pensait, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses, et c'est souvent comme ça quand émergent des mouvements d'expression nouveaux.
Vous trouvez aussi que ce mouvement est intéressant, Laetitia Strojoinard ?
Alors, plus généralement sur les hashtags, je ferai d'abord la distinction entre deux types de hashtags. Il me semble qu'il y a ces hashtags qui sont des expressions, des volontés d'être écoutées, une revendication, une envie d'être reconnue, entendue, et c'est important et ça veut dire quelque chose. En effet, quels que soient les éléments quantitatifs qu'on peut avoir en parallèle. À côté de ça, il y a d'autres types de hashtags sur lesquels je suis un petit peu plus sceptique, qui sont pour moi davantage des expressions de vertu. Il y a un terme anglo-saxon pour ça, c'est « virtue signaling », ça veut dire « signalement vertueux ». Et aujourd'hui, c'est très courant que sur les réseaux sociaux, des gens inventent ou reproduisent des hashtags qui sont supposés être engagés, et qui sont supposés exprimer une forme de vertu, une forme de morale. Un exemple emblématique, c'est Make the Planet Great Again d'Emmanuel Macron en 2017, juin 2017, après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris.
Rendez la planète plus forte.
Ouais. Et là, je suis un peu sceptique parce que c'est bien de montrer qu'on est vertueux si on est vertueux, mais il y a un moment où on a l'impression que l'affichage remplace un petit peu l'action. Donc ça, c'est. Je commencerai par faire cette distinction entre deux types de manifestations.
Ça dépend de qui finalement utilise peut-être ces hashtags. C'est-à-dire selon qu'on est plutôt du côté des, disons, des citoyens lambda ou selon qu'on est du côté des politiques. Oui. Et on voit bien que ces outils de démocratisation, en tout cas qui nous ont été présentés comme tels, peuvent être aussi bien utilisés aujourd'hui par les internautes citoyens que par les partis politiques, les formations politiques.
Bien sûr, et ils peuvent même être récupérés par les partis. On voit que les responsables politiques...
C'est fait, on va donner des exemples si vous voulez.
Adore le faire.
C'est récupéré à fond, là.
C'est tout le temps récupéré. Donc, mais même, je ne jette la pierre à personne, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand on participe à un mouvement comme ça, ou qu'on retweet un hashtag, on peut être vraiment convaincu. Mais la vraie question, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et ça n'est pas parce qu'on tweet quelque chose qu'on agit dans la réalité.
Ben justement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors là, je vais passer à l'autre mode que j'évoquais ce soir. C'est pas le hashtag, c'est la pétition, qui sont deux formes d'expression, même si elles sont assez dissemblables en ce sens que le hashtag, on peut le faire de manière totalement anonyme. Quand on signe une pétition, normalement, on donne au moins son prénom, son nom, et puis sur les plateformes, en général, son email. Mais dans votre livre, Romain Slitine, vous dites notamment, alors s'agissant des pétitions, que c'est un mode d'engagement rapide et adapté à une génération. Est-ce que justement, alors une des limites peut-être de ces formes d'expression, ça n'est pas de se donner une bonne conscience, donner l'impression qu'on est engagé en juste quelques signes ou quelques clics?
Moi, je rejoins ce que vous avez dit. Le hashtag seul ne suffit pas, la pétition seule ne suffit pas. Mais c'est une caisse de résonance pour mettre à l'agenda des sujets politiques, voire pour obtenir, et c'est là où c'est devient intéressant, des victoires politiques. Et les pétitions en ligne, on a tous les exemples. On en a qui ne prennent pas, il y en a qui prennent, et par exemple, on pense à la pétition contre la loi travail El Khomri il y a quelques années maintenant.
Mais voilà, qui avait été lancée par Caroline De Haas.
De Haas, qui a été en France la plus importante, qui reste la plus importante, avec 1 200 000 personnes qui ont fait une pétition. Derrière, ça n'a pas changé la loi. Mais on a aussi des victoires sur ces plateformes, change.org, Avaz, Mes Opinions. Par exemple, on parlait de la problématique sur Catherine Sauvage, justement.
Jacqueline Sauvage, sur la violence conjugale.
Sur la violence conjugale, mais il y a une pétition qui a justement permis d'avoir une libération accélérée du président. Et donc, ça peut marcher aussi.
Oui, mais ça peut marcher, mais est-ce que c'est pas une efficacité qui, dans certains cas, peut être problématique? C'est-à-dire, est-ce quand, finalement, l'opinion se substitue, alors là, en l'occurrence, peut-être au pouvoir judiciaire, puisque c'est le pouvoir politique qui, derrière, impose cette décision, Géraldine Mulman, ou en tout cas fait pression sur le pouvoir politique. Il y a peut-être des fois où c'est intéressant et d'autres fois où ça peut être problématique, non?
Je ne m'y attendais pas en le disant au début, mais quand j'ai noté que ce qui m'intéressait le plus, c'était les récits et pas les discours, je constate, et c'est bien normal, que nous sommes tout de suite allés maintenant sur les discours. C'est-à-dire les discours qui je vous le dis franchement, ce qui est peut-être pour moi en général le moins intéressant. C'est-à-dire ces gens qui disent, et maintenant il faut faire ça, alors ça peut être la vertu, ça peut être la pétition, etc. Bon, qui sont des choses qui comptent, qui ont, évidemment, qui font partie de ce qu'est une démocratie vivante. Mais je trouve vraiment que ce qui manque le plus dans nos démocraties, c'est l'autre partie. C'est entendre toutes les voix qu'on n'entend jamais, des témoignages qui savent pas forcément vers quelle pétition ils veulent aller, c'est pas le sujet. C'est cet aspect qui, à mon avis, fait que ces mouvements, ils interpellent avant tout le journalisme et pas le politique.
Parce que sauf que le politique que réagit de plus en plus.
Du politique, je vais vous répondre. Je suis comme vous, souvent un peu déçue, parce que je vois bien qu'ils y vont là comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Ça n'a pas duré 48 heures que déjà on avait à l'Assemblée nationale des gens comme Éric Ciotti, bon, et d'autres qui ont dit voilà, il faut absolument, alors c'était aussi sur les RICS évidemment, tout ça, et c'est l'actualité de la semaine, n'est-ce pas, il fallait revenir sur les ordonnances de 1945 concernant les mineurs. Je vous le dis franchement, je ne suis pas hostile à une discussion sur ce sujet, je n'ai pas de religion définitive, mais enfin c'est quand même incroyable, si vous voulez, je ne suis pas du tout sûre les gens qui ont témoigné sur les RICS ou qui ont évoqué les violences scolaires avaient cet enjeu-là en tête, comme ça. Donc, je m'en méfie, et je pense que les politiques, ils se servent de ça allègrement, alors pour le coup en oubliant la texture sensible des récits. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Laetitia Strojbonnard.
Mais justement, il me semble que quand vous évoquez la question du récit, en filigrane, vous posez la question de la représentativité. Et c'est là que je suis un petit peu sceptique aussi par rapport à l'expression sur les réseaux ou par pétition, c'est qu'on a l'impression d'avoir réglé le problème de la représentation en disant la politique et la démocratie ne représentent pas bien les gens ne votent plus, ils ne s'expriment pas, ils ne sont pas entendus. Eh bien, on a trouvé une formule qui est bien meilleure, qui est la représentation directe. Et en fait, finalement, c'est la question que se pose la démocratie depuis le début entre la démocratie directe ou la démocratie représentative. Et ça fait des siècles qu'on se pose cette question. Ce qui vaut mieux un pouvoir qui exprime directement ce que pensent les individus, les citoyens, ou est-ce qu'il faut des intermédiaires, des institutions? Mais je ne crois pas qu'on ait complètement trouvé la réponse, parce que pour moi, il y a un nouveau biais de sélection, en fait, qui est introduit par les réseaux sociaux, les pétitions. C'est que les gens qui s'expriment ne sont pas non plus représentatifs. Déjà, ils ont accès à ces outils, ils ont envie, ils sont engagés. Quid de tous les autres qui sont peut-être plus âgés, qui n'ont pas envie, que ça n'intéresse pas, qui n'aiment pas non plus prendre des positions fortes? Et ça, c'est un autre point qui est important pour moi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur tous les sujets, c'est noir ou blanc. Il faut être pour ou il faut être contre. Et quand on est dans la nuance, quand on essaie d'être modéré, qu'on ait envie de dire « alors, je suis 30% d'accord avec vous, 70% d'accord avec les autres », il n'y a pas de place pour nous ou pour les gens qui sont comme ça sur les réseaux sociaux.
Alors, il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle le jugement majoritaire, justement, qui est assez intéressant, une manière de voter où, justement, sur chaque sujet, on peut se positionner de manière un peu plus fine. Et ça fait partie des innovations démocratiques qu'on peut valoriser.
Néanmoins, Romain Sittin, il y a deux choses qu'aborde Laetitia Strojbonnard. C'est-à-dire, il y a la question de la représentation. Et puis, il y a la question que j'ai oubliée. Donc, on va rester déjà sur la question de la, sur la question de la représentation. Ça rejoint d'ailleurs un édito qu'a signé cette semaine Nicolas Bétou dans l'Opinion et qui dit ceci à propos de ce phénomène. On sait bien qu'il manquera toujours à cette démocratie 2.0 deux principes fondamentaux, l'émargement sur une liste qui légitime un vote et la certitude qu'un homme, c'est une voix. Quelle certitude peut-on avoir que ces mouvements qui paraissent impressionnants, spectaculaires, sont véritablement représentatifs d'une, comment dire, d'un mouvement d'opinion, même si on sait bien que l'opinion publique n'existe pas, ça on va pas en faire les cours de sciences politiques d'il y a quelques années, mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour rendre plus légitimes en tout cas ces mouvements?
Bon, il n'y a pas de démocratie idéale, il n'y a pas de solution idéale. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire déjà le constat que la démocratie représentative aujourd'hui effectivement ne fonctionne pas complètement. Quand on sait juste sur l'Assemblée nationale, il y a 2,6% d'élus, donc de députés qui sont issus des qui sont originaires soit ouvriers soit employés, alors que ça représente 50% de la population. Donc on peut pas dire que ça fonctionne, et donc c'est pour ça que il y a toutes ces expériences, expérimentations qui peuvent être tout à fait embryonnaires ou qui peuvent avoir un effet. Mais
ça, on a quand même l'impression qu'en face il y avait presque un mouvement de panique du politique qui est de réagir absolument à tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et de démontrer. Alors c'est pas nouveau, il y a toujours eu quand il y a eu des faits divers, très souvent des projets de loi qui arrivaient, mais est-ce que les réseaux sociaux n'accentuent pas encore ce phénomène, Romain Slitin? Est-ce que ça passe pas la question justement de, bah voilà, tiens, j'y reviens. J'ai retrouvé le deuxième thème qu'évoquait Tissa Strauss-Bonnard, c'est finalement aussi celui de la complexité, c'est-à-dire on est obligé d'aller au plus simple finalement, au plus radical.
On est obligé d'aller au plus simple, et c'est pour ça que quand même je distinguerai les réseaux sociaux qui en fait permettent une expression d'un certain nombre de catalyser une demande, une insatisfaction ou un sujet qui n'est pas abordé par la classe politique, mais qui ne permet pas véritablement une délibération démocratique un peu plus sereine. C'est pour ça qu'il existe d'autres, au-delà des réseaux sociaux, d'autres initiatives qui sont des plateformes beaucoup plus complexes qui permettent justement d'élaborer une opinion politique et une décision. Je voudrais prendre un exemple, c'est Parlement et Citoyens, qui est une plateforme justement spécialisée qui permet en fait d'associer les citoyens à la fabrique de la loi. Comment ça se passe en deux mots? C'est soit un député, soit un ministre qui peut aujourd'hui, sur cette plateforme Parlement et Citoyens, déposer son projet de loi, puis faire une petite vidéo explicative avec pourquoi il fait cette loi, mettre l'ensemble des informations nécessaires, puis ensuite il y a une phase où les citoyens, pendant un mois, peuvent poster des amendements, voter sur les amendements citoyens, et à la fin, il y a une synthèse qui est réalisée et qui peut être intégrée dans la loi. Et ça a été déjà expérimenté, par exemple, par Axel Le Maire en 2016, où il y a eu, dans sa loi République numérique, 5 articles qui ont été complètement des amendements citoyens. Donc ce que je veux dire là-dessus, c'est que pour que l'expression citoyenne soit véritablement crédible, utile, il faut du temps, il faut de la méthode, il faut des moyens. Et c'est pour ça que...
Il faut de l'encadrement.
Il faut de la méthode, mais comme la démocratie est représentative, c'est une alternative si on s'y prend bien, à mon avis.
Géraldine Neumann.
Oui, alors, bon, pour aller un peu dans le sens de choses que vous avez dit toutes les deux, je crois que le conflit démocratie représentative face à l'opinion publique, il est structurel. Il est structurel comme problème à la démocratie. Je veux dire, je ne sais pas ce que c'est qu'une démocratie sans crise de ce genre. Avec la nostalgie d'une démocratie directe, très rarement appliqué dans l'histoire. On dit souvent que les Grecs à Athènes l'avaient appliqué. C'est pas vrai. Il y avait des représentants à Athènes. Simplement, ils étaient face à une opinion publique qui participait, qui observait l'élaboration des lois sur la colline, là, le Pnyx. Et puis qui, surtout ces représentants, il y avait une rotation incroyable. Ils étaient tirés au sort. Enfin, on avait inventé d'autres moyens. Mais la crise, l'idée qu'il faut peut-être se méfier du représentant pérenne et en particulier élu, parce que l'élection, ça fabrique des classes aristocratiques, un petit peu qui des aristocraties de la démocratie, comme le disait Bernard Manin il y a quelques années. Tout ça, cette méfiance qui obsédait les pères fondateurs des États-Unis, par exemple, Jefferson qui avait lu Rousseau, tout ça, c'est structurel, on n'en sortira jamais. Et face à cela, on a bien sûr une opinion publique qui n'est pas toujours géniale, hein, qui est parfois binaire, qui est parfois simpliste. Bon, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que sur ce point, bon, on fait avec, mais que, d'une part, on n'a plus aujourd'hui des relais comme les partis à un certain moment donné, mais aussi comme la vie associative, comme au fond tout un monde qui est passé maintenant du côté du virtuel, mais qui a longtemps été réel. Et moi, je crois qu'on ne peut pas totalement remplacer ce réel, cette façon de s'associer, de discuter ensemble. Et je suis convaincue qu'un jour, on y reviendra. Mais on est dans une crise presque du voisinage, quoi, presque du la capacité à prendre deux minutes dans la rue pour discuter avec ses voisins de tout ce qui ne va pas dans le quartier ou ailleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi une très grave crise d'idées et de personnalité politique. Enfin, il y a une désespérance qui ne nous touche pas que nous, mais qui est absolument mondiale. Et pour, juste, c'est mon dernier point, ce que vous disiez, Romain Siltine, sur le fait de participer. Moi, je trouve ça très intéressant, la démocratie participative. Mais je pense, peut-être comme vous, que ce n'est pas uniquement un problème d'expression, comme là. C'est aussi... Participer, c'est faire des choses. Et je pense qu'il faudrait aussi réfléchir dans notre démocratie à faire des choses aux gens. Pas seulement voter les lois, mais faire des choses aux gens. Et ça, autant vous dire que la classe politique, elle flippe complètement à l'idée qu'on puisse, par exemple, au niveau local, demander sur des bases à réfléchir volontaire, au tirage au sort, plein de possibilités sont ouvertes, qu'on leur donne des vraies responsabilités, que dans nos vies, il y ait du politique qui ne soit pas réservé à la classe politique. Cette question est la grande question taboue de nos sociétés démocratiques représentatives.
Laetitia Stroche-Bonnard.
Oui, alors je vais complètement dans votre sens. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que pour moi, il y a un double mouvement. Certes, il y a moins de partis pour encadrer comme avant. On se sent peut-être beaucoup plus individualisé, individualiste, un peu perdu. Et il y a cette crise du voisinage, comme vous dites. D'un autre côté, on est étouffé par la bureaucratie. Et je pense que c'est aussi ça, l'envie de participation et de démocratie participative. C'est l'envie d'avoir une relation directe avec les services publics, par exemple. Et ce qui est passionnant, c'est ce qui se fait au niveau local. C'est pour ça que je serais beaucoup plus enthousiaste, en fait, sur toutes les initiatives locales, par exemple les budgets participatifs qui sont tentés au niveau local, que vis-à-vis de grandes initiatives nationales, parce que tout de suite, ça devient un petit peu compliqué. Mais au niveau local, on peut faire des choses vraiment intéressantes, et là, la technologie devient une aide, parce qu'elle enlève en fait la couche qui nous sépare de l'administration. Par exemple, les applications aujourd'hui dans certaines municipalités qui vous permettent de dire « Ah tiens, cette route est abîmée, il faut venir la réparer », ça aide la vie des gens concrètement, parce qu'avant, il fallait passer par X personnes, c'était beaucoup trop bureaucratique.
Mais quand vous faites le distinguo, Laetitia Stroche-Bonnard, entre les initiatives au niveau local et les initiatives au niveau national, est-ce que c'est parce que vous considérez que, en fait, alors restons sur ce terme de citoyens doivent s'occuper des questions qui les touchent directement et qu'il faut laisser les questions nationales, les questions politiques aux représentants? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est impossible, parce que ces actions-là ne peuvent pas être efficaces à l'échelle nationale?
J'ai tendance à penser que quand on change d'échelle, il faut changer la façon dont on aborde les problèmes. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir la même approche des problèmes quotidiens au niveau local qu'au niveau national. Parce qu'au niveau local, ce qu'on vit et ce qu'on fait a un impact direct sur nous. On le voit. Donc on joue sa peau en permanence. Tout ce qu'on fait, on en paie les conséquences. Au niveau national, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est en quelque sorte qu'on assiste à une espèce de tripartition de l'espace politique. Il y a des choses qui sont très concrètes, très locales, qu'on arrive à régler, qu'on a envie de régler ensemble. D'un autre côté, il y a des questions extrêmement compliquées. Aujourd'hui, on ne peut plus répondre à certaines questions démocratiquement parce qu'on a besoin d'expertise. Il y a des questions d'ailleurs qui sont, dans l'histoire, complètement sorties du champ démocratique. Par exemple, la santé. Aujourd'hui, on ne vote plus. On ne se pose plus la question entre citoyens de savoir si la cigarette est mauvaise pour la santé ou quel régime alimentaire il vaut mieux privilégier. Aujourd'hui, on a mis un certain nombre de questions qui sont des questions d'experts dans des agences. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu tiraillé entre cet espace local très concret et cet espace d'experts, et qu'il faut garder un espace intermédiaire où il reste une représentation nationale avec des institutions, parce qu'on sait à peu près le faire et il ne faut pas détruire les choses qu'on sait à peu près faire.
Faire de la démocratie directe à travers les outils du numérique, ça ne veut pas forcément dire essayer d'abolir la démocratie représentative, Romain Siltine ?
Non, et je pense que moi je voudrais un peu la distinction justement entre local et national. Moi ça m'intéresse évidemment toutes les initiatives locales qui, comme vous l'avez dit, permettent d'avoir de l'action et permettent de prendre des décisions et donc de faire un contre-pouvoir réel aux élus en place. Mais ce que moi je trouve aussi intéressant, c'est de regarder regarder, d'explorer en France ou à l'étranger les initiatives nationales où on a fait, où les citoyens ne se sont pas auto-censurés ou bien on leur a fait confiance pour prendre l'initiative des lois, pour modifier une constitution, que ce soit en Islande, que ce soit en Irlande, où ça a été la constitution a été modifiée avec un système de citoyens tirés au sort, en associant d'ailleurs des élus. Donc ce qui est intéressant, c'est pas forcément une opposition, mais je trouve que ce qu'il faut, c'est vraiment inventer ces formes où, également au niveau national, il est possible de faire confiance aux citoyens et donc à la délibération et donc à l'expertise. Tout ça, ça coûte encore une fois du temps, de l'argent, de l'expertise. Mais à mon avis, ça ne règle pas tous les problèmes, bien évidemment. Moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant parce que ça me semble un peu l'avenir de quelque chose à dessiner.
Non, mais je trouve que votre approche est très intéressante parce qu'elle est nuancée. Et vous parlez du temps, qui est une donnée extrêmement importante dans la délibération et dans la démocratie. Mais c'est vrai qu'à côté de vous, je pense qu'il y a des gens qui ont une vision peut-être beaucoup plus brutale de la démocratie numérique directe et qui ne sont sûrement pas aussi nuancés quand ils examinent l'opinion publique.
Il y a un outil qui existe aujourd'hui, qui n'est peut-être pas nécessaire justement d'inventer, qui est un outil de la démocratie directe, qui est le référendum, avec la possibilité. Alors en France, c'est particulièrement encadré, c'est dans l'article 11. Alors c'est pas le référendum d'initiative populaire, comme il peut exister à l'échelle européenne, où il faut qu'il y ait plus d'un million de citoyens et au moins un quart des pays de l'Union qui soient représentés dans ces initiatives. Mais c'est un référendum d'initiative partagée, finalement, qui rejoint pas mal la discussion qu'on a ce soir entre l'idée qu'il peut y avoir un pouvoir qui vient des citoyens tout en ayant quand même cette démocratie représentative. Là, l'idée, c'est que voilà, des citoyens et des parlementaires portent un projet de référendum Romain Slitine. Ça suppose pas de changer quoi que ce soit. Il suffit juste de s'emparer de ces outils, peut-être. Exactement. Déjà commencer par les connaître.
Mais... Exactement. Faut connaître. Alors, l'article 11, à ma connaissance, n'a jamais été mis en œuvre. Il y a un moment, c'est le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui a un rôle là-dedans, qui devait s'en saisir autour de la question du mariage pour tous, mais considérant que c'était une question trop politique, ne s'en était pas emparé. Mais je crois beaucoup au référendum d'initiative populaire, parce que c'est finalement pourquoi il n'y aurait que les ministres, le gouvernement ou les députés qui pourraient mettre à l'ordre du jour un sujet. L'ensemble des citoyens peuvent convaincre leurs compatriotes de faire émerger un sujet. Quand on regarde... Mais donc c'est toute la question de la différence entre un droit formel qui est dans l'article 11, comme vous le dites, à passer à un droit réel. Et pour ça, il faut un certain nombre d'actions. Il y a un exemple en Finlande, puisque ça marche en Finlande. Ce droit d'initiative citoyenne a été accordé en 2012. Et grâce à une plateforme Open Ministry, elle a été activée par des citoyens plus d'une douzaine de fois pour des lois majeures, comme le mariage homosexuel. Donc ça peut marcher.
Géraldine Mühlmann, et question que je vous pose à tous les trois. Jusqu'où une initiative citoyenne peut remettre en cause la loi ou peut remettre en cause une décision politique d'ordre national? Je pense par exemple à ce que préconise la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui eux étaient pour aller jusqu'à un droit de révocation des parlementaires, c'est-à-dire dont le courant de leur mandat, s'ils n'exécutaient pas, disons, le programme pour lequel ils avaient été élus, les citoyens avaient la possibilité de les révoquer. Est-ce que ça peut aller jusque-là?
Dans les projets, il y a des projets qui finalement tournent tous autour d'une réforme du législatif, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent participer plus pleinement au législatif. Ça renvoie à toute la tradition de la philosophie politique, qui est que la souveraineté, c'est l'acte législatif, c'est là où on est souverain, et donc il faut que sur ce point, les gens puissent le faire directement, pas seulement par la représentation. C'est notre résidu rousseauiste français, on va dire. Hein. Alors chez Jean-Luc Mélenchon, ça prend la forme de « Ok, on met des représentants, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a compris qu'on ne pouvait pas tout faire sans représentants, donc on met des représentants, mais on les tient, c'est l'idée des mandats impératifs, une vieille idée... c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle est pas intéressante, enfin disons qu'elle est pas non plus toute neuve, et de le tenir les représentants. Ça dépend sur quoi, mais ça, si vous voulez, ça va un peu contre son idée. C'est pour ça qu'il a des contradictions, Jean-Luc Mélenchon, parce que par ailleurs il dit, comme vous savez, le député du peuple, il est sacré, il est inviolable, il est la souveraineté, le morceau de la souveraineté. Donc ça fait partie des contradictions, Jean-Luc Mélenchon, qui montre qu'il a lu beaucoup de traditions politiques différentes. C'est un homme assez cultivé, mais de temps en temps, il y a des petits parasitages. Je ne suis pas hostile, c'est un point de réflexion. L'autre sujet de réflexion, toujours dans le même ordre d'idée, c'est celui de l'initiative
populaire. Ça permettrait d'avoir un référendum qui produirait du législatif, là encore, on est bien d'accord, mais pas dans les mains d'un césariste potentiel qui est notre vraie grande maladie française, parce qu'en général, le référendum chez nous, il a toujours été utilisé par des personnages qui mettaient leur être politique en jeu, et finalement, ça devenait toujours un référendum pour ou contre eux, et ça a produit aussi des régimes autoritaires. Enfin, c'est une histoire qui nous embarrasse. Donc ça, c'est très bien. Et je voudrais juste signaler que j'ai parlé de toute autre chose, parce que ça, c'est très français, l'histoire du législatif. Moi, je pense que c'est l'exécutif qu'il faut déléguer aux gens. Ça, personne ne le dit, je le reconnais volontiers. Ce sont des tâches exécutives. Il faut que les gens y bossent un peu pour la collectivité. Ils apprennent ce que c'est, pour casser les bureaucraties. Il faut qu'on donne des tâches aux gens, des vraies tâches. C'est bien de les entendre avoir une opinion, ils le font. C'est bien qu'ils puissent voter, peut-être un peu plus qu'ils ne le font. Mais c'est pas idiot de réfléchir à des formes véritables d'exécutif en commun, où on fait des tâches du quotidien ensemble, on décharge un certain nombre d'administrations.
Mais ça s'appelle les associations, c'est-à-dire tout le travail qui est fait dans les associations, c'est très souvent ça.
Mais aussi
ça, quand même.
Qu'on puisse créer, je pense, un intérêt quotidien et concret pour ce qui se fait dans sa mairie, voire, je suis même sur des services.
Mais avec le risque aussi qu'on finisse par déléguer aussi certaines fonctions ou certaines tâches, je veux dire, à l'ensemble des citoyens, alors qu'elles devraient être assumées, par exemple, par la puissance publique, non ?
C'est très tabou, j'ai bien conscience que ça l'est, mais j'assume.
Ah, moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant.
Romain
Cittine et ensuite Laetitia Strojbonnard.
Juste, je trouve ça très intéressant votre analyse et la façon dont vous le présentez, mais je pense à Saillant, qui est une petite commune dans la Drôme. Elle fait exactement cette expérience avec des groupes d'action citoyens, justement, en lien avec l'exécutif de la mairie, justement, pour prendre en charge directement un certain nombre de tâches pour la collectivité. Bon. Donc c'est intéressant.
Laetitia Strojbonnard.
Alors, une expérience à plus grande échelle encore, c'est celle du gouvernement britannique en 2010. Le gouvernement de David Cameron a lancé un énorme projet. C'était une énorme discussion nationale pendant des années. Ça s'appelait la Big Society. C'était exactement ce que vous décrivez.
Qui était un peu une arnaque à l'arrivée, quand même.
Mais pas du tout. Non, mais ça, c'est l'interprétation qu'on a voulu en faire. Parce qu'en même temps, il y avait des mesures d'austérité et on les a accusés d'avoir voulu maquiller l'austérité derrière cette participation civique. Ce qui n'était
pas le cas.
Parce
que c'est quand même aussi une façon de dire aux gens, prenez-vous en main. C'est-à-dire,
oui,
la solution, elle vient de vous.
Exactement, et pas... ça. Oui. Mais c'était. Alors,
donc, ça a des limites quand même.
Non, mais ça se raccordait. Non.
C'est pas le discours individualiste.
Mais pas du tout, c'était pas ça. C'était
que je dis, en tout cas, moi.
C'était le gouvernement conservateur britannique de l'époque qui essayait de revenir aux sources du conservatisme d'Edmund Burke en disant on a eu Margaret Thatcher, on est passé par une période très individualiste, maintenant on va être ensemble. Et c'était Big Society, donc la grande société. Alors ça a été moqué, ça a été très discuté, mais il y a eu beaucoup d'initiatives. Et c'était quand même passionnant de voir que les gens essayaient au niveau local, mais aussi national, de participer plus, et pas seulement au législatif, à l'exécutif.
Il y a un dernier hashtag que je voudrais évoquer pour terminer l'émission, qu'on n'a pas encore abordé, c'est Balance ton maire. C'est un hashtag qui est apparu là aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux, suite à la publication, après une décision du gouvernement, en l'occurrence du ministre du budget, Gérald Darmanin, de la liste des communes qui avaient augmenté la taxe d'habitation, alors que la politique du gouvernement devait faire en sorte que cette taxe puisse baisser. Alors, c'est pas le gouvernement qui a lancé, bien sûr, le hashtag Balance ton maire, mais ensuite, il y a eu un phénomène de publication des noms des élus qui se retrouvent être, fautifs, en tout cas selon ceux qui ont lancé ce hashtag. Et parallèlement, il y a eu aussi un député de la France Insoumise, François Ruffin, qui, lui, en réaction au refus de voter une proposition de loi sur l'accompagnement scolaire des enfants handicapés, a lui aussi publié, alors sur sa page Facebook, la liste des députés qui ont refusé de le faire. Est-ce que c'est pour vous de la transparence, et que c'est intéressant parce qu'on est démocratie, il faut de la transparence, ou bien est-ce qu'on est plutôt du côté de la délation, Romain Cittine?
Si c'est, encore une fois, c'est des coups médiatiques, ça peut être assimilé à de la délation. Si on est sur une réflexion un peu plus de long terme, ça peut être de la transparence. Je pense, par exemple, à des sites qui existent déjà, qui s'appellent nosdéputés.fr, nossénateurs.fr, qui justement permettent d'analyser, de décrypter l'action précise de nos représentants. Ce qui permet d'augmenter la redevabilité de nos représentants. Je trouve ça intéressant, parce que tel député a voté voté telle loi, a fait tel amendement, a fait tel rapport. Et ça permet alors soit, et d'ailleurs au départ, quand ces sites sont apparus il y a quelques années, les élus étaient très critiques, voire étaient vent debout en disant mais c'est justement de la délation, etc. Et finalement, on voit que quand c'est fait de manière plus apaisée et sereine, en dehors du débat médiatique, eh bien, ça permet bien au contraire de valoriser l'action de nos représentants, de comprendre ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils sont forcément le mercredi à l'Assemblée pour la télé qu'ils travaillent sur des sujets de fond plus ou moins que d'autres. Donc c'est vraiment intéressant, si c'est bien fait encore une fois, et si c'est fait de manière constructive, j'appellerai ça de la transparence.
Laetitia Roche-Bonnard.
Je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu ambigu dans la démarche quand même, parce que le fait de rendre des comptes est essentiel, et peut-être que si on en est là aujourd'hui, c'est que nos représentants politiques n'ont pas rendu assez de comptes. Malheureusement, on voit là un défaut important du réseau social qui est la réactivité, l'impulsivité, l'émotion. Et d'ailleurs, les réseaux le savent bien, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Et donc, ils utilisent des propensions psychologiques humaines à réagir très vite, à être un peu grégaire, à vouloir être apprécié. Et je ne trouve pas ça forcément bien pour notre vie, pas seulement politique, mais notre vie commune, parce que ça crée énormément de conflits. On sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas vraiment discuter, on ne peut pas avoir de conversations intéressantes. Les gens se battent et ça accroît la polarisation politique. Aux États-Unis, par exemple, c'est très fort. On a vu que la polarisation, c'est-à-dire l'écart entre le Parti démocrate et le Parti républicain, est au plus fort. On n'a jamais vu ça auparavant. Et les réseaux sociaux, ils participent aussi. Donc je serais assez méfiante vis-à-vis de ces initiatives qui, en plus, versent souvent dans la surenchère.
Géraldine Mulman.
Écoutez, je pense que effectivement, il y a un problème de binarisation de l'opinion publique pour le compte. Ça, c'est un autre sujet, mais il faut quand même en dire un mot. Simplement, j'ai tendance à juger sur ce point que ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux dans leur existence. C'est la faute de ce qui arrive au monde dans lequel nous vivons depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que pour les gens qui étudient les idées politiques, qui est à peu près l'essentiel de mon métier, c'est terrible de voir à quel point ces choses-là sont mondiales. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a résurgence d'idées dont on ne parlait plus, pas de cette façon, depuis 70 ans. Il y a un petit côté années 30 et je pense que ces problèmes de fond, c'est pas parce qu'il y a des réseaux sociaux qu'il y a ces idées, mais c'est parce qu'il y a ces idées dans la tête de beaucoup de gens en ce moment dans le monde et qu'il y a une visibilité particulière, qu'il y a que ça s'entend sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je ne sais plus quelle était votre question d'origine, mais...
Non, en tout cas, votre réponse est tout à fait parfaite, Géraldine Mulman. Une initiative, Romain Slitin, dont vous avez eu la modestie de ne pas parler encore ce soir, vous qui avez fondé donc Système D, accélérateur d'innovation démocratique, c'est notamment Éco-expertise citoyenne horizontale. De quoi s'agit-il et en quoi ça rejoint justement la discussion de ce soir?
Éco-citoyen, c'est effectivement une initiative qu'on a accompagnée, qui est un lobby citoyen qui fait émerger des sujets qui n'émergent pas ou qui émergent justement, comme vous l'avez dit, de manière trop polarisée. La politique publique des drogues, par exemple, comment gérer cette vaste question? On peut le traiter de manière très politique, politicienne, avec du coup des solutions qui vont pas correspondre à la société et aux attentes aujourd'hui que la majorité des Français peuvent avoir. Et donc, Éco-citoyen fait toute une démarche sur plusieurs mois pour faire émerger le sujet, pour ensuite faire débattre des citoyens et des experts ensemble, et pour ensuite faire des propositions de loi pour que les députés puissent l'adopter. Donc typiquement, c'est là encore, au-delà de l'écume médiatique ou de la polarité ou de la polarisation politique, des choses qui me semblent intéressantes à pousser, à promouvoir, et c'est ce qu'on essaye de faire.
Voilà, et ces initiatives, on peut les retrouver, même si le livre date de 2016, dans votre livre, Romain Slitin, Le coup d'État citoyen, que vous avez publié il y a 2 ans, donc, aux éditions La Découverte, avec Elisa Lewis. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du club cette semaine. Merci Laetitia Roche-Bonnard et Géraldine Mulman. On vous retrouve bientôt dans ce club. Merci également à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Leïla Saïdi et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Charles Bouticourt, Stéphane Touvenin, Laurent Binder et Cédric Chatelus. Dans un instant, vous allez retrouver La Dispute avec Arnaud Laporte. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir Hervé. Et puis on vous retrouve demain à midi.
Alors non, demain pour Politique. Et si.
Déjà les vacances.
Mais vous verrez, ce sera très bien. Les conflits d'intérêts avec Frédéric Seyss. Et puis la semaine prochaine, c'est Antoine Janton qui présentera Du Grain à Moudre. Je reviens le 5 novembre. Saurez-vous tenir jusque-là,
Arnaud? Géraldine Mulban préfère, je crois, votre remplaçant à vous-même, Hervé.
Elle faisait le pouce levé.
Oui, ah bon, d'accord. Oui. J'ai oublié votre question.
Vous avez l'esprit mal tourné, comme d'habitude.
On se retrouve pour parler de cinéma dans 3 minutes. En attendant, c'est Maïwenn Bordran qui nous attend au 8e étage de cette maison de la radio pour les titres de l'actualité.